DW. Pulsation. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up. Get Up, Stand Up chantait Bob Marley, mais il ne se relèvera pas. Le 11 mai 1981, il y a 40 ans jour pour jour, il s'éteignit en effet, laissant toute une génération de fans orphelins. Il reste dans les mémoires comme la star incontestée du reggae à travers le monde et aussi celui qui a rendu ce style musical universellement populaire. Voici une biographie musicale de Bob Marley. Bonjour à toutes et à tous, c'est Yann Durand au micro, c'est Pulsation et c'est parti. Robert Nesta Marley naît le 6 février 1945 à Nine Miles, en Jamaïque, dans la ferme de ses grands-parents afro-caribéens. Sa mère noire est alors âgée de 18 ans. Son père blanc, contremaître de plantation, a lui 59 ans lorsque Robert voit le jour. Ses grands-parents paternels, des Anglais du Sussex, désapprouvent le mariage interculturel. Mais son père, peu présent, soutient financièrement la famille jusqu'à sa mort en 1955. Robert a alors 10 ans et il s'installe avec sa mère à Trench Town, un quartier pauvre de la banlieue de la capitale Kingston, qu'il chantera plus tard. À 14 ans, Bob quitte l'école et retrouve un ami de Nine Mile, Neville Livingstone, plus connu plus tard sous le nom de Bunny Wailer. Puis il fait la connaissance de Winston Hubbard McIntosh, qui deviendra le très connu Peter Tosh, avec lequel il chante alors du gospel et des succès de la soul américaine entendus à la radio. Un chanteur connu à l'époque, à Trench Town, les prend sous son aile et les fait progresser. En 1963, à 18 ans, Bob Marley, avec ses amis, forme le groupe vocal Les Wailers, qui veut dire « les gémisseurs » en français. Les premiers succès leur valent un contrat avec un producteur local. Ils atteignent même le sommet des charts jamaïcains avec Simmer Down, un titre dans la pure tradition du ska. Les Wailers quittent leur producteur en 1965 car ils ne leur versent pas leur dû. Le groupe va faire les frais de nombreux producteurs et managers, à une époque où la musique en Jamaïque n'est pas très réglementée. Tout se fait sans contrat écrit et les abus sont donc courants. C'est aussi la période où le rocksteady remplace le ska. On s'oriente désormais vers la soul et le rhythm and blues des USA. Puis la vie de Bob s'emballe. Il épouse Rita Anderson en 1966 et part aux États-Unis rejoindre sa mère qui est mariée à un Américain. Dans le Delaware, il travaille dans un hôtel et écrit des chansons. Voulant retrouver sa liberté, il repart cependant en Jamaïque après quelques mois. Là, il commence à s'intéresser de près au mouvement mystico-religieux du rastafarisme, car cette communauté l'accepte, lui, le métis à la peau claire, souvent rejeté par les noirs jamaïcains. Puis il crée avec Bunny Wailer et Peter Tosh un label indépendant qui va lui permettre de vivoter. Ils produisent principalement du rocksteady, comme le fameux Hypocrites. En 1968, Bob a 23 ans. Il vit dans la pauvreté malgré un contrat avec le manager du chanteur américain Johnny Nash qui lance le rocksteady aux États-Unis avec beaucoup de succès grâce notamment aux compositions que lui fournit Bob Marley, dont le mémorable « Stir It Up ». En revanche, les Wailers piétinent depuis qu'ils se sont séparés de leur premier producteur. Si bien qu'en 1969, Bob rejoint à nouveau sa mère aux USA pour travailler dans une usine automobile. Un an plus tard, de retour à Kingston, il fonde la maison de disques Tuff Gang et commence à chercher son nouveau style reggae. C'est en Angleterre, où il rend visite à son vieil ami Lee Scratch Perry, que va se faire le déclic. Perry, qui réussit à Londres avec les Upsetters, donne une nouvelle couleur à la musique des Wailers et enregistre avec eux plusieurs chefs-d'œuvre, dont Sal Rebel, Kaya et Sun Is Shining, que voici dans une version plus récente, issue de l'album Natural Mystic. Dancing feet to the rescue. Mais le succès continue à se faire attendre. Pourtant, Bob Marley est prolifique. En 1971, à 26 ans, il a déjà contribué à pas moins de 350 chansons enregistrées en studio. Un répertoire dont il se servira plus tard quand son heure aura sonné. En attendant, il participe à des projets comme la musique d'un film suédois qui l'amène dans le froid de Stockholm à la demande de Johnny Nash, qui lui engrange les hits et essaie de relancer Bob à l'international. Mais le son et les musiciens anglais qu'on lui met à disposition ne lui conviennent pas. Et la tournée de 100 concerts organisés en Angleterre est un désastre pour les Wailers. En manque d'argent et désespéré, Bob Marley se tourne alors vers Chris Blackwell, un riche Jamaïcain fondateur des labels Trojan et Island Records en Angleterre. Il a déjà distribué de la musique jamaïcaine en Grande-Bretagne et a entendu parler de Bob Marley et des Wailers. Il décide alors de racheter le contrat de Bob et de lui donner une avance de 8000 livres pour enregistrer un album à Kingston sur simple accord verbal. On est en 1972. Un an plus tard, après un mixage à Londres, sort Catch a Fire, le premier vrai album des Wailers. Sur 9 titres, Bob en signe 7, dont No More Trouble, ici dans une version live, en 1978 à Boston. Until the philosophy which old one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned. Well, everywhere is war. This your war. Les deux premiers albums, Catch a Fire et Burning, sont salués par la presse mais pas par le public. De retour de tournée anglaise, Bunny Wailer quitte le groupe suivi de Peter Tosh après une série de prestations aux États-Unis. Les tensions entre ces trois fortes personnalités étaient devenues trop importantes. Qu'à cela ne tienne, Chris Blackwell se réjouit car il a toujours considéré Bob comme un leader charismatique. Désormais, le groupe s'appelle Bob Marley and the Wailers. C'est le début de l'épopée sur la scène internationale. Le troisième opus, publié par Island Records, s'appelle Netty Dread et permet à Bob d'entrer dans la cour des grands. Les Wailers jouent à Kingston avec les Jackson 5, puis avec Stevie Wonder. Et surtout, leur titre I Shot the Sheriff a été repris par la star mondiale Eric Clapton. En 75, un album live illustre le succès phénoménal de la première tournée internationale du groupe et une chanson comme No Woman No Cry devient un hymne et propulse Bob Marley au sommet. En pleine gloire, Bob rachète à Chris Blackwell la grande maison qu'il occupe déjà à Kingston. Entre 1975 et 80, cette demeure sera un lieu de rencontres politiques, musicales bien sûr, mais également sportives, Marley et ses amis étant férus de football. L'album suivant, Rastaman Vibration, sorti en 1976, reste le plus vendu de son vivant et constitue son premier vrai succès aux États-Unis. La puissance scénique du groupe est extraordinaire. En décembre de cette année, en pleine campagne électorale, 6 hommes armés font irruption chez lui et tentent de l'assassiner. Il en réchappe, mais le sentiment d'insécurité qui en résulte le pousse à s'exiler à Londres. C'est durant cet exil que sort l'album Exodus, nommé en 1998 meilleur album du XXe siècle par le Time Magazine. C'est le premier album qui n'est pas enregistré en Jamaïque et le style s'en ressent. Ce nouveau reggae est un peu plus rock. Toujours en exil à Londres, Bob Marley se blesse au pied lors d'un match de foot. On détecte alors un cancer. Il refuse l'amputation de l'orteil qui lui est conseillée, notamment à cause du précepte Rastafari qui interdit toute amputation. On se contente donc de retirer le mélanome à l'orteil en juillet et il se croit tiré d'affaire. Puis il va enchaîner les nouvelles parutions. En 1978, Kaya, dont la tournée permettra d'enregistrer l'album live culte Babylon by Bus. Ensuite sort Survival en 1979, considéré comme l'un de ses plus aboutis. Un album qui chante la libération du continent africain et l'émancipation des Noirs issus de l'esclavage pour un retour à la terre d'origine, l'Afrique. Et enfin, Uprising, en 1980, vient clôturer l'œuvre de Bob Marley puisqu'il n'aura pas le temps de poursuivre son aventure. Et pourtant, il semblait parti pour explorer de nouveaux horizons, comme le laisse présager l'un des hits disco de Uprising, Could You Be Loved. La gigantesque tournée de Uprising, qui devait le mener dans les plus grands stades du monde entier, sera la dernière de Bob Marley et elle n'ira pas à son terme. Il est pris d'un malaise dans Central Park le 21 septembre. Le diagnostic est terrifiant, cancer généralisé. Deux jours plus tard, il assure tout de même le concert de Pittsburgh, mais les autres dates sont annulées. Il part en novembre se faire soigner en Allemagne, en Bavière, mais la thérapie révolutionnaire à laquelle on le soumet est un échec. Au printemps 1981, privé de ses dreadlocks et pesant moins de 50 kilos, il se résout donc à être rapatrié en Jamaïque pour y vivre ses derniers jours. Mais en escale à Miami, il est trop faible pour finir le voyage et s'éteint à l'hôpital à l'âge de 36 ans. Bob Marley and the Wailers, c'est 18 albums studio, 6 albums live et 45 compilations. Parmi toutes ces chansons, voici pour nous quitter celle qui résume peut-être le mieux le message de Bob Marley à son public. Il s'agit de la dernière piste de son dernier album, des arrangements simples et un discours panafricaniste, Redemption Song. All pirates, yes they rabbi, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit, but my hand was made. Vous accédez au podcast de cette émission sur dw.com/français rubrique médiathèque. Merci de votre attention et à très bientôt. Salut. Generation, triumphantly, won't you help to sing these songs of freedom, 'cause all I ever have, redemption songs, redemption songs.